Alors je vous emmène donc en 1907 du côté de Grandlieu, et cette grève de 1907, c'est un moment fort de l'histoire de Passet, village de pêcheurs, etc. Pourquoi ? Parce que d'abord parce que ce combat souligne la volonté du syndicalisme et du socialisme nantais, de notre département, de sortir des centres ouvriers urbains, de conquérir de nouveaux espaces pour la contestation politique et sociale, mais également leur volonté de combattre les restes de féodalisme, ou présentés comme tels, qui sont très présents et encore hégémoniques dans un univers aussi réactionnaire que la Loire inférieure rurale de l'époque. Ensuite, parce qu'elle permet cette lutte de la création de deux coopératives, la première une coopérative de pêche, et la seconde une coopérative de consommation, qui survivront des décennies. Elle est menée par un homme devenu depuis une figure locale. Il s'appelle Arsène Corbeau. Il est né le 18 décembre 1880 à La Chevrolière. Il est fils d'un marchand de poissons devenu restaurateur et d'une cabaretière débitante. Un Arsène Corbeau dont on sait au demeurant peu de choses. Si le fait qu'il se soit noyé dans les eaux du lac en 1912 peut laisser entendre qu'il était pêcheur de profession lors de la grève en question, donc en 1907, sa nièce et d'autres habitants soutiennent qu'il n'était pas pêcheur à l'époque, en 1907, et qu'il travaillait à Nantes, ce qui peut expliquer qu'il ait été chercher du soutien à la Bourse du Travail auprès donc des syndicalistes. Alors, pêcheur, pas pêcheur, pêcheur occasionnel. J'ai passé mon après-midi aux archives ici parce qu'il y a un magnifique dossier, une liasse qui s'appelle la 10M45, si mes yeux ne me trahissent pas. Voilà, 10M45. Et j'ai beau fouiller, il y a très peu de choses, peu d'informations sur ce mystérieux Arsène Corbeau. Comme il y a des passifs parmi nous, peut-être qu'ils vont pouvoir nous en dire un peu plus sur ce personnage un peu mystérieux. En tout cas, 100 ans plus tard, le mystère demeure. La grève des pêcheurs de Passet de janvier-février 1907 se produit dans un contexte social très agité, tant au niveau national que local. Depuis octobre 1906, la France est dirigée par Georges Clemenceau, soutenu par les radicaux qui ont gagné les élections législatives en mai 1906. Et ce Vendéen, médecin de profession, n'est plus le défenseur d'une république soucieuse du bien-être prolétaire qu'il fut dans les années 1880 ou 1890. À l'époque, il s'est battu pour l'amnistie des communards. À l'époque, il fut Dreyfusard, etc. On l'a dit même proche des boulangistes quand ce mouvement politique secouait une république qui était avilie par trop de copains et de coquins impliqués dans les scandales. Voilà. On lui doit aussi quelques phrases savoureuses comme « les polytechniciens savent tout, mais rien d'autre ». On lui doit également « la plus petite unité de mesure de poids, c'est le milligramme, la plus petite unité de mesure de volume, c'est le millilitre, la plus petite unité de mesure de l'intelligence, c'est le militaire ». Ou encore celle-ci, alors j'ai failli l'éviter parce qu'elle est peu convenable, un peu vulgaire, mais je la trouve toujours d'actualité, « donnez-moi 40 trous du cul et je vous fais une académie française ». Donc vous le voyez, Clemenceau, il a fait sa carrière aussi sur ces punchlines, comme on dit aujourd'hui. Mais le sexagénaire, en 1905, 1906, 1907, est devenu un homme d'ordre. Pour les syndicalistes de la jeune CGT, donc qui est né en 1895, il est le premier flic de France à la tête d'un gouvernement d'assassins, utilisant systématiquement la troupe pour maintenir l'ordre social. Un ordre social bousculé par les classes populaires, une CGT qui est dominée par des militants qui ne cachent pas leur ardent désir d'en finir avec le capitalisme, l'État et la démocratie représentative. La CGT, à cette époque, de 1906, a le visage, par exemple, d'Émile Pouget, l'anarchiste, de Victor Griffuels, qui est blanquiste, de Georges Yvetot, alias le Bulldog, qui est un anarcho, fils de gendarme, devenu orphelin, habitué des tribunaux et des prisons. Et d'ailleurs, en 1907, il va s'illustrer à Nantes lors de la grève des dockers du printemps, c'est en mars-avril, et il finira d'ailleurs en prison, mais ça, il n'en avait que faire, puisqu'il passait son temps en prison. Alors des réformistes, bien sûr, il y en a, et ils ne tarderont pas à prendre le contrôle de l'organisation syndicale, parce que tout simplement, quand l'État met en prison tous les leaders un peu syndicalistes ou révolutionnaires, ben, la place est libre pour les syndicalistes qui le sont beaucoup moins. Par contre, il ne faut jamais oublier l'importance de ce courant réformiste au sein du mouvement ouvrier. Et Jacques Julliard, qui est un historien, a écrit dans la revue Le Mouvement Social en 1974, ce qui ne rajeunit personne et surtout pas moi, Alors que le moindre agitateur trouve sans peine son historien et qu'on se dispute le droit d'étudier la plus petite feuille anarchiste, des pans entiers du mouvement syndical et socialiste français restent dans l'ombre en raison de leur orientation modérée ou réformiste. Et vous allez le voir, dans le conflit de Passet, les syndicalistes qui se déplacent à Passet pour soutenir les pêcheurs, ce ne sont pas les militants syndicalistes révolutionnaires, mais plutôt des gens qui sont modérés. Un premier conflit a opposé en 1903 les pêcheurs de Passet à leur ennemi juré, François Guillou, fermier qui gère le lac au nom de son propriétaire, le marquis de Juigné, auquel il verse une redevance annuelle de 24 000 francs. Alors, cette célèbre famille en est maître de ce lac depuis le XIVe siècle de façon quasi ininterrompue. Je dis quasi parce que le lac fut un bien national pendant la Révolution française. Mais dès 1804, la famille de Juigné a retrouvé ses droits, mettant fin ainsi à la discussion sur qui est propriétaire ou pas de ce fichu lac. Question qui n'est pas anodine, j'en parlerai pas dans la conférence, mais sachez que pendant le conflit des pêcheurs, dans les archives ici, dans l'alias 10M45, vous retrouverez une petite brochure d'un militant. Alors c'est signé un pêcheur, est-il vraiment pêcheur ou seulement un militant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il conteste la thèse du droit de propriété des deux Juigné sur le lac. Il dit qu'en fait, les véritables possesseurs du lac, ce sont les pêcheurs eux-mêmes. Voilà. Jacques Leclerc, marquis de Juigné, est une personnalité politique de premier plan. Il est député de l'arrondissement de Paimboeuf, poste qu'il va d'ailleurs occuper sans interruption jusqu'en 1936, avant de devenir sénateur. C'est un fervent chrétien, c'est un fervent royaliste, hein, comme il se doit de ce côté-ci de la Loire. Il n'appartient à aucun parti. Et il est enfin le gendre du maître des forges au Creusot, c'est Henri Schneider, hein, qui lui aussi n'est pas très porté sur l'idée républicaine. Donc le premier conflit social a eu lieu en 1903 et l'objet du conflit tenait bien sûr à la répartition des fruits de la pêche, car depuis une quinzaine d'années, le fermier Guillou prélève 30% du total des ventes de poissons à l'issue des enchères. Le mouvement ne donne rien, mais donc va rebondir 3 ans plus tard, en octobre 1906, quand 90 des 120 pêcheurs recensés à Passet constituent un syndicat dont Arsène Corbeau devient le secrétaire. La revendication essentielle dont est porteur le syndicat est simple. Il veut la déchéance du bail d'affermage consenti à Guillou depuis 1886. Nos pêcheurs ne sont donc pas des rouges, remettant en question le droit de propriété. Non, ils veulent justice et dignité et le renvoi d'un affameur nommé Guillou, dont le bail arrivera dans 2 ans à échéance. J'ai retrouvé quelques informations sur ce Guillou. Il a 63 ans en 1906. Il est issu d'une famille très pauvre, dit le commissaire de police qui rédige le rapport, issu d'une famille très pauvre du coin, dit-il, donc des environs du lac. C'est un revendeur de poissons qui a fait fortune grâce à la protection du marquis. Voilà donc le dénommé Guillou. Et vous allez le voir, il y a un document remarquable qui est conservé par les archives, qui date du 6 février 1907. C'est le commissaire spécial de Nantes qui le rédige. Et il fait un tableau très instructif de la situation sociale des pêcheurs de Passet et des relations qu'ils entretiennent de longue date avec Guillou. Ce commissaire-là se montre extrêmement sensible à la colère des pêcheurs, au point de fustiger même la rapacité de leur patron, donc de Guillou. Écoutez plutôt, le texte est très long, mais il est remarquable. Et c'est pour ça que je le donne quasiment in extenso. Dans mon rapport du 31 janvier dernier, j'indiquais combien les pêcheurs de Passet étaient dignes d'intérêt et combien pénible et difficile était leur existence. La plupart d'entre eux sont endettés chez le boulanger, l'épicier et autres fournisseurs. La misère les guette et ne tardera pas à franchir leurs portes, les obligeant à la soumission ou à la violence. L'organisation syndicale a dessillé les yeux à ces malheureux qui jusqu'à présent s'étaient prêtés docilement à la scandaleuse exploitation exercée sur leur travail par leur patron Guillou, qui a fait revivre sur les bords du lac de Grandlieu la légendaire rapacité des seigneurs du Moyen-Âge. Avant 1886, date à laquelle Guillou devient fermier du lac, les pêcheurs de Passet vendaient eux-mêmes le produit de leur pêche à une sorte de criée qui avait lieu tous les jours au retour de la pêche et à laquelle se rendaient un certain nombre de revendeurs dont la concurrence était souvent profitable aux pêcheurs. Les enchères partaient d'un maximum et descendaient jusqu'à ce que l'un des acheteurs prononce le mot « vendu ». Le fermier, ils étaient alors au nombre de 4, prélevait 28,75% sur le produit de la vente, quelle que fût l'espèce du poisson. C'était, disent les pêcheurs, le bon temps où on vivait convenablement et où on pouvait réaliser quelques économies. Un procès entre les 4 fermiers de l'époque facilita l'avènement de Guillou. Le premier soin de Guillou fut d'éliminer les principaux acheteurs-revendeurs qui journellement apportaient quelque argent au petit commerce local ou appartenaient à la population locale et donnaient aux pêcheurs une rémunération avantageuse. C'est que Guillou, non satisfait de son titre de fermier du lac et des bénéfices qu'il retirait de son fermage, voulut être marchand de poissons sans concurrence. Pour ce faire, Guillou imagina de s'arroger le droit de choisir d'abord sur les lots, avant la mise en vente, le poisson qui lui convenait, c'est-à-dire ce qu'il y avait de mieux. Grâce à ce choix, il arriva petit à petit à monopoliser la clientèle et à lasser et faire disparaître les acheteurs gênants auxquels il ne laissait que le fretin. Ce résultat obtenu, il devint à peu près l'unique acheteur du poisson pêché dans le lac de Grandlieu. Et de ce jour, voici comment il opéra. Au débarquement, chaque pêcheur étale sa prise, son lot, sur le sol. Guillou se présente, fait choix des plus belles pièces que d'un coup de sabot, il fait disparaître du lot. Il en évalue le poids au coup d'œil et à sa fantaisie, leur attribue selon les qualités une valeur de 0,40 francs, 0,50 ou 0,60 la livre. Le fretin est mis aux enchères et acheté par des petits revendeurs qui, à l'aide d'attelages de chiens, vont en faire la vente dans les localités voisines. Cependant, si un de ces lots livrés aux enchères descend à un prix trop bas, trop avantageux pour l'acheteur, Guillou intervient après l'adjudication et prend d'office la moitié de ce lot, laissant seulement l'autre moitié à l'adjudicataire, payant bien entendu la moitié du prix total d'achat. Le poisson ainsi acheté à ses pêcheurs par Guillou, choix ou fretin, est revendu par lui à Nantes ou ailleurs et souvent sur place et au nez des pêcheurs de 1 franc à 1 franc 10 la livre, soit avec bénéfice de plus de 100, sans préjudice du 28,75% déjà déduit du prix payé ou attribué aux pêcheurs pour des lots de choix ou prélevés sur le produit des enchères. En ce qui concerne la pêche spéciale du pimpenot, petite anguille, qui ne se pêche qu'à certaines périodes de l'année, Guillou prélève là la moitié de la pêche, plus 5%, c'est-à-dire que sur 200 sujets, il en prend 105 pour lui et n'en laisse que 95 aux pêcheurs. Mais trouvant encore ce bénéfice personnel insuffisant, il fait défense de vendre à tout autre que lui et achète au prix unique de 4,70 francs le 100 la part du pêcheur et revend séance tenante aux acheteurs par lui choisis à raison de 6 francs le 100 ou expédié en Angleterre au prix de 7 à 8 francs. La pêche de cette anguille est assez importante et malgré tout assez rémunératrice pour le pêcheur. Une certaine quantité de ce poisson est mise en réserve dans des caisses pour aller par petits paquets sur les marchés. La réserve actuelle, qui n'est qu'une partie de la pêche, comprend environ 300 000 sujets. Il résulte des procédés de Guillou que les pêcheurs qui touchaient et devraient toucher encore environ les trois quarts du produit de la vente ne touchent que le quart ou les trois dixièmes au plus. Touchant tous réunis au nombre d'une centaine, moins de la moitié de ce que Guillou touche à lui seul. Et les procédés que je viens d'énumérer sont encore bien moins répugnants que ceux que je vais indiquer. Guillou fait argent de tout et veut surtout de l'argent. Il surveille avec attention la grosseur du poisson et fait mettre de côté celui qui ne possède pas la dimension réglementaire. Ce poisson, qui représente parfois une assez grosse quantité, est enlevé par ses soins, disparaît aux yeux et au bénéfice des pêcheurs et est vendu par Guillou qui ainsi augmente encore son bénéfice. Qu'un pêcheur se plaigne et Guillou lui inflige aussitôt une amende de 5 ou 10 francs pour avoir illégalement pêché ce poisson que cependant il vend, lui, très illégalement. Qu'un pêcheur lui déplaise ou lui résiste, il le débarque d'office et séance tenante. La mise à terre entraîne l'enlèvement des filets ou celui des barrages établis et fait éprouver de ce fait une perte pour le pêcheur frappé qui atteint parfois 200 ou 300 francs. La misère pour de longs mois. S'il apprend par quelques-uns de ses indicateurs pêcheurs qu'il favorise, qu'un pêcheur a tenu à son égard ou contre l'exploitation du lac des propos désobligeants, il le fait appeler et comparaître devant lui en tête à tête et lui inflige une amende. S'il s'aperçoit que la dénonciation est fausse, il n'en conserve pas moins le montant de l'amende infligée, mais il en inflige une autre égale au dénonciateur qu'il appellera « malhonnête homme et misérable ». Qui veut pêcher doit d'abord lui payer une indemnité d'entrée, qui veut acheter doit de même se soumettre à sa cupidité. Il avait réussi à monopoliser à son profit la vente des engins et accessoires de pêche, au détriment des commerçants de l'endroit. Il avait fait défense aux pêcheurs, sous peine de mise à terre, d'acheter ailleurs que chez lui. Mais les pêcheurs ont repris leur liberté d'achat depuis la création du syndicat. Voilà, à la lecture de ce remarquable document, je pense que je pourrais arrêter ma conférence, hein, parce qu'il est vraiment, c'est une source extraordinaire. Et on se demande bien comment les malheureux pêcheurs de Passet ont pu supporter aussi longtemps le joug d'un tel exploiteur. Et alors, ce témoignage-là, ce qui est intéressant, C'est quand je l'ai retrouvé dans les archives, je l'ai relu avec beaucoup d'intérêt. Et il écrit autre chose, le commissaire, un peu, je crois que c'est en introduction. Il dit que les pêcheurs, malgré les pressions du marquis, malgré les pressions du Guillou et malgré les pressions du clergé local, se sont tournés d'instinct vers la République. En gros, ce commissaire-là, c'est un républicain. Et à travers ce texte qui est très dur pour Guillou et qui ne ment certainement pas, c'est un homme qui veut en finir avec les restes de féodalisme qui existent du côté de Grandlieu. Voilà, il faut le lire ainsi, je pense, ce texte-là. Une fois le syndicat constitué, officiellement le 18 octobre 1906, l'agitation prend de l'ampleur à partir du mois de janvier. Elle débute par l'apparition dans la presse amie de longs articles exposant la situation matérielle et morale des pêcheurs, les revendications du syndicat et les obligations nombreuses que leur impose le fermier. Le syndicat écrit au marquis de Juigné et à Guillou même pour leur demander de recevoir une délégation. Tous deux répondent par la négative. Le marquis de Juigné explique qu'il est retenu par ses obligations de député à Paris et Guillou lui répond que, je cite, « il est inutile de fixer un rendez-vous, les pêcheurs avec lesquels je suis en rapport, sachant que je suis à leur disposition tous les dimanches, jour de paye ». Mais en fait, cette démarche-là, elle irrite profondément Guillou, qui ne tarde pas à s'en prendre aux pêcheurs. Et certains, eh bien certains sont mis à terre d'autorité et un autre, François Hervouette, est jeté en prison. Alors François Hervouette, il a été condamné 6 mois plus tôt par le tribunal correctionnel de Nantes suite à une plainte de Guillou qui lui reprochait d'avoir pêché sans son autorisation. Et comme il n'a pu régler les 277 francs 28 de dommages et intérêts, eh bien, Guillou le fait incarcérer. Arsène Corbeau, condamné lui aussi à cette même occasion, échappe à l'incarcération car elle a réussi à payer la somme due, soit 276 francs 58, ce qui n'est pas rien à l'époque. Autrement dit, il a payé près de la moitié du revenu annuel d'un pêcheur. Et en fait, c'est cette action-là qui va mettre le feu aux poudres. Le 30 janvier, les pêcheurs décident de se mettre en grève et une trentaine d'entre eux se rendent en soirée devant le domicile de Guillou. Et on imagine sans mal que l'atmosphère y fut des plus tendues. Alors j'en veux pour preuve une phrase. « Il veut nous faire crever de faim, nous l'aurons nous aussi par la famine. » Autrement dit, on va encercler sa maison, il n'en sortira plus jusqu'à ce qu'il nous rende raison. En fait, c'est pas du tout ce qui va se passer, parce que l'encerclement ne va pas durer. Dès le soir, les pêcheurs ont levé le camp, et là encore, dans une des archives de l'alias 10M45, on apprend, selon le commissaire, que les pêcheurs qui occupaient les lieux, qui entouraient la maison, qui empêchaient les gens de passer, de sortir, etc., sur les conseils, je cite, d'une personnalité de Nantes s'occupant de leurs intérêts, eh bien, ils ont décidé de lever le camp. En gros, certainement qu'ils ont eu, ils étaient en relation avec Blanchard, un syndicaliste très connu de la Bourse du Travail, qui leur a dit si vous encerclez la maison, la police va intervenir, vous allez vous faire charger, etc. Donc le mieux, c'est d'arrêter cette action un peu forte. Mais bon, Guillou, lui, n'est pas du tout content et il écrit dès le lendemain au procureur de la République réclamant de celui-ci qu'il prenne des mesures préventives avant que les pêcheurs ne fassent en fait sauter le château, autrement dit sa maison. Et d'ailleurs, dans le courrier, qui est présent encore dans les archives, il s'inquiète beaucoup à la fois pour sa santé, celle de sa famille, celle de sa maison, mais également pour ses petites réserves de pimpenaux et il pense que les pêcheurs vont aller lui voler le poisson, etc. Donc il est vraiment extrêmement tendu, le François Guillou. Faire la guerre au château pour avoir la paix dans les chaumières, eh bien oui, dans les conflits sociaux ruraux de la France d'une belle époque qui ne l'était guère pour beaucoup, eh bien le souvenir de la Grande Révolution n'est jamais loin. C'est le début donc d'un conflit qui va durer 3 semaines, durant lesquelles une large solidarité va s'affirmer en faveur des pêcheurs. Dès le début du mouvement, la presse républicaine nantaise, le Phare de la Loire, le Nouvelliste de l'Ouest, le Populaire de l'Ouest, apporte son soutien aux légitimes revendications des pêcheurs. Et Guillou, lui, peut compter sur le soutien d'un organe de presse que je ne connaissais pas jusqu'à il y a 3 heures, qui s'appelle l'Express de l'Ouest. Il est animé par un curieux personnage qui s'appelle Monsieur Quentin ou Monsieur de Saint-Quentin, qui se dit républicain, et alors là, le commissaire de police fait un portrait de cet homme absolument incroyable. Il dit en gros, bon, il se dit républicain, mais en fait, c'est un homme de droite et d'extrême droite, lié aux monarchistes, au marquis de Dion, et en fait, il a pénétré les milieux républicains de ce côté-ci de la Loire inférieure pour faire l'indicateur. Et il a une phrase sur ce personnage, « Au fond, monsieur de Saint-Quentin servirait le plus offrant ». Donc c'est un curieux personnage, mais en tout cas, durant le conflit, il va s'en prendre régulièrement à ceux qu'il appelle les repus de la Bourse du Travail et aux gens qui, de la pêche, ne connaissent que le braconnage. Il défend Guillou, il défend le marquis de Juigné. Et de toute façon, il met toujours sur le compte des exaltés les actions un peu virulentes menées par les pêcheurs. Or, les actions virulentes, elles sont très rares. Hein. Les pêcheurs, ils ont eu cette action-là en direction de la maison de Guillou. Globalement, c'est tout. Ça reste des gens qui ne sont pas du tout dans une mentalité insurrectionnelle, comme on peut le trouver du côté des dockers nantais ou des gars du bâtiment quand ils se mettent en branle dans la ville de Nantes à cette période. De son côté, Arsène Corbeau se rend à la Bourse du Travail de Nantes pour obtenir le soutien du mouvement syndical, ce qu'il obtient rapidement. Le secrétaire de la Bourse du Travail, Joseph Blanchard, s'engage alors très activement du côté des pêcheurs. L'implication des syndicalistes ou d'ouvriers ne doit pas étonner outre mesure. Depuis une dizaine d'années, Charles Brunelière, par exemple, qui est un armateur de métier, qui est un socialiste de conviction, qui est membre de la Bourse du Travail de Nantes, est impliqué dans la défense des vignerons complanteurs du Sud-Loire aux prises avec leurs propriétaires. Des vignerons qui ont assisté, d'ailleurs, médusé en 1894, donc ça remonte déjà plus d'une décennie, à un célèbre congrès à Nantes, un congrès d'une structure qui s'appelle la Fédération nationale des syndicats et qui deviendra la CGT l'année suivante, congrès durant lequel se sont affrontés les partisans, les opposants à la grève générale. Et eux, ces vignerons-là, ils sont tout au plus républicains. Ils ressemblent beaucoup à nos pêcheurs. Hein. Ils sont républicains, c'est pas du tout des socialistes, c'est pas du tout des rouges. Mais voilà, ils ont assisté à ce congrès, ce qui prouve bien que pour Charles Brunelière à l'époque, il était important de ramener des paysans, entre guillemets, dans le mouvement syndical. Brunelière, son sentiment, c'est que le socialisme breton, s'il doit se développer, s'il doit prospérer, eh bien, il doit s'adresser à tous les exploités du territoire. Et donc, il veut amener au socialisme et il veut affronter sur leur terrain la noblesse réactionnaire et les notables bourgeois. Ce qu'il fait, lui, de son côté, à Monnières, à Valette, à Château-Thébault, entre 1890 à peu près et 1914, eh bien, Joseph Blanchard, lui, va le mener à la Chevrolière et à Passet en 1907. Le 5 février, une réunion des grévistes, soutenue par les femmes d'ailleurs, décide, en réaction à l'emprisonnement d'Hervouette, d'encercler la maison de Guillou et de l'empêcher d'en sortir. Dans la soirée, donc, deux gendarmes accompagnent le commissaire spécial pour constater les faits, mais les pêcheurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont quitté les lieux. L'otage Guillou ne l'est plus, mais l'atmosphère est donc plutôt à la jacquerie. Trois jours plus tard, une réunion se tient au cours de laquelle Joseph Blanchard réclame le calme dans l'action. Comme je vous l'ai dit aussi, Blanchard n'est pas un exalté, c'est un syndicaliste réformiste et un socialiste qui l'est tout autant. Lors du conflit des dockers qui va éclater un mois plus tard, le préfet indiquera qu'il a exercé, je cite, « à maintes reprises une influence plutôt heureuse sur la solution de différents conflits entre patrons et ouvriers, conseillant à ceux-ci, dans diverses circonstances, le calme et la conciliation et entretenant des rapports très convenables avec l'administration ». Et ce qui est rigolo, entre guillemets, cruelle ironie, c'est que le préfet écrit ces mots alors que le malheureux Blanchard vient d'être roué de coups par la police lors de la dispersion d'une manifestation sanglante des dockers en grève. À l'issue donc de cette réunion, un cahier de revendications est rédigé. Et les revendications, elles sont au nombre de trois. Elles n'ont rien de révolutionnaire et elles tendent à deux objectifs, en fait. Améliorer la situation financière des pêcheurs en faisant jouer la concurrence entre les acheteurs et mettre un frein à l'autoritarisme de Guillou. Je vais les citer. Hein. La redevance sera sur tous les poissons pêchés dans le lac de Grandlieu de 28,75%, ce qu'elle est déjà. Tout le poisson sera vendu publiquement aux enchères et tout le monde aura la liberté d'acheter. Et puis, troisièmement, le fermier ne pourra, sauf dans un cas très grave, mettre inter un pêcheur quelconque que s'il a prévenu 3 mois à l'avance pour lui donner le temps de s'expliquer et de se défendre. Et vous l'aurez peut-être noté, mais le départ de Guillou ne fait plus partie des revendications portées à ce moment-là par les pêcheurs. Et parallèlement donc à ce travail autour des revendications, sans attendre, la solidarité financière se met en place. Il y a des listes de souscriptions qui sont publiées dans les journaux nantais. Celle du 19 février, dans le Phare de la Loire, s'élève à 220 francs 65. Le 27 février, dans le Nouvelliste, 221 francs 85. Le total des souscriptions est évalué par l'administration à 1500 francs. C'est énorme. Et ça veut dire à quel point, d'une certaine façon, les pêcheurs sont en train de gagner la bataille de l'opinion. Le 11 février, une délégation de pêcheurs rencontre le marquis de Juigné. Et de cette réunion, nous ne savons pas grand-chose, sinon qu'elle entraîne, dès le lendemain, elle entraîne Guillou à proposer de se retirer. Mais cela ne met pas fin au conflit, car les pêcheurs attendent en fait une réponse écrite du marquis avant de regagner leurs embarcations. Et cette réponse leur arrive quelques jours plus tard, elle est même publiée dans l'édition du 22 février 1907 du Nouvelliste de l'Ouest. Le marquis de Juigné écrit ceci au secrétaire du syndicat des pêcheurs. « Monsieur, je viens de résilier le bail Guillou en ce qui concerne la pêche. C'est chose faite depuis aujourd'hui. Afin de vous permettre de travailler dès maintenant, je vous adresse les conditions auxquelles je vais exploiter moi-même jusqu'après avoir traité avec un nouveau locataire. Premièrement, aucun pêcheur ne pourra vendre son poisson autrement qu'à la criée qui aura lieu à Passet chaque jour à des heures déterminées. Le propriétaire aura droit sur le produit de cette vente, comprenant tout poisson, à une redevance de 28,75%. Tout poisson sera vendu publiquement aux enchères et toute personne aura la liberté d'acheter. Là encore, il répond aux demandes des pêcheurs. Les pêcheurs pourront mettre les poissons à vivre dans le lac. Enfin, les pêcheurs devront se conformer par les mailles des filets à la dimension du poisson au règlement actuellement en vigueur. Tout poisson qui ne serait pas à la maille devra être immédiatement rejeté au lac. Comme je vous l'ai dit, termine le marquis, je m'arrangerai dans le renouvellement du bail pour qu'aucun intérêt ne soit lésé. Donc il y a une volonté claire du marquis de mettre fin à la grève et au conflit. Les pêcheurs, d'ailleurs, sont satisfaits des concessions obtenues. Ils reprennent leur labeur dès le lendemain. Mais la suite des événements nous laisse penser que lors de la dernière entrevue entre le marquis et les pêcheurs, ces derniers sont allés bien au-delà des trois revendications dont ils étaient porteurs. Ils ont dû faire comprendre au marquis qu'une paix véritable ne reviendrait sur les bords du lac qu'à la condition que Guillou n'y mette plus les pieds. Comment avoir confiance dans un homme aussi autoritaire? Comment le croire capable de se conformer au nouvel ordre des choses alors qu'il a fait fortune en piétinant le droit des pêcheurs et le droit tout court? Ils ont dû lui faire comprendre également que le prochain fermier devrait composer avec des pêcheurs organisés, syndiqués, sûrs de leur force, et qu'il aurait sans doute intérêt, en tant que propriétaire des lieux, à confier le fermage à ceux qui tiraient du lac leurs moyens de subsistance. De fait, le marquis de Juigné décide d'exploiter lui-même la pêche en attendant que le syndicat, transformé en coopérative, puisse en prendre le fermage. Le 10 mai, une réunion se tient à Passet. Un accord est trouvé. Le conseil d'administration de la Société coopérative des pêcheurs du lac est formé. Son bureau comprend 12 membres, dont 6 appartiennent d'ores et déjà aux pêcheurs syndiqués. Le gérant sera nommé par le propriétaire et le bail sera signé au plus tard le 19 mai. Or, le 23 mai, le marquis adresse une lettre aux pêcheurs leur signalant que le bail n'est toujours pas signé et qu'il est en droit donc de reprendre sa liberté. Cependant, il accorde un nouveau délai d'une semaine et le 29 mai, le bail est finalement signé. Début juin, une fête amicale est organisée à Passet, pendant lesquelles sont remerciés publiquement ceux qui ont pris en main la cause des pêcheurs, c'est-à-dire Joseph Blanchard, secrétaire de la Bourse du Travail de Nantes, Maurice Schwob, directeur du Phare de la Loire. Le bureau du syndicat des pêcheurs de Passet est composé de Arsène Corbeau, secrétaire, Hervouette, celui qui était en prison, secrétaire adjoint, et Richard, qui est trésorier, ainsi que le fameux Racineux, qui est trésorier adjoint. Le bilan de la grève est donc très favorable aux pêcheurs. Ils ont obtenu la déchéance du bail de Guillou et sont devenus fermiers du lac au travers de leur coopérative. Ils savent que leur revenu ne pourra qu'augmenter puisqu'ils n'auront plus à subir la façon cavalière avec laquelle Guillou établissait les comptes. L'ensemble du mouvement s'est déroulé sans incident majeur. Les gueux n'ont pas mis le feu au château, les revendications n'ont pas dépassé le cadre corporatif et à l'international des ouvriers, eh bien nos pêcheurs, qui sont des travailleurs à l'esprit farouchement indépendant, ont préféré les accents de la Marseillaise. Les temps ont changé donc sur les berges de Grandlieu. Le 4 août 1907, la traditionnelle fête de Passet n'est plus organisée par la municipalité, mais par un comité particulier dans lequel les pêcheurs prennent une part active. Ils organisent notamment des courses de bateaux sur le lac, permission que Guillou leur avait retirée, ainsi que des dégustations de poissons qui sont offertes à tous ceux qui souhaitent s'en procurer. Occasion impossible auparavant, car la vente de poissons le jour de la fête était interdite par le même Guillou. Le Phare de la Loire consacre un long article, lyrique en diable, intitulé « La fête de Passet, les pêcheurs du lac de Grandlieu chez eux, un village dans la joie, vers la prospérité, succès complet de la journée ». C'était hier dimanche que l'humble bourgade de Passet, si longtemps troublée durant la période où ses pêcheurs cherchaient leur indépendance, célébrait sa fête annuelle et il nous a paru intéressant, presque au lendemain d'événements qu'on n'a pas oubliés, de nous rendre compte de l'état d'esprit nouveau des habitants devant leur situation nouvelle. À partir de midi, malgré la chaleur torride et la lumière implacable, l'entrain s'accentue. L'arrivée de la fanfare galvanise tout le monde. Il n'est pas 2 heures de l'après-midi que de tous les côtés l'on danse déjà. Les couples bravant la température valsent éperdument. les plus vieux, parmi les pêcheurs qui suivent d'un œil attendri les évolutions chorégraphiques quasi héroïques des jeunes générations, hochent la tête d'un air content. Ils n'ont jamais vu tant d'exubérance et de gaieté, et ils se plaisent à le dire. Abandonnant le village que la foule encombre pour assister de plus près au spectacle des jeux installés dans les rues, mâts de cocagne, baquets russes, tourniquets, anneaux, gagnons les berges du lac en compagnie de Monsieur Corbeau, qui nous parlera au milieu des échos de la fête de choses plus sérieuses. Monsieur Corbeau, secrétaire du syndicat, veut bien nous donner quelques détails sur la situation actuelle des pêcheurs. Il n'y a pas à se dissimuler que les résultats obtenus depuis un mois seulement dépassent leurs espérances. Non seulement les pêcheurs à présent vivent et se sentent vivre, mais encore, ils peuvent dès maintenant faire face aux obligations de leur coopérative. Débarrassés du joug écrasant qui pesait sur eux, qui faisait l'objet de vexations réitérées, de marchandages et d'abus par leur bonne entente actuelle, les voici à la tête d'une organisation excellente. Le marché ne se trouve plus à la merci du caprice, et dès maintenant, les habitants de Passay sentent le prix de cette cordiale union. La pêche peut à présent aider à subvenir aux besoins du pêcheur, alors qu'autrefois, rien n'était plus incertain. C'est avec une satisfaction évidente, la satisfaction d'un artisan de la première heure, que M. Corbeau nous montre l'importance grandissante de la coopérative et l'influence de ce syndicat. Nous nous promenons sur les berges desséchées, toutes craquantes de joncs coupés et de branches mûres. Et M. Corbeau ne nous cache pas que les pêcheurs rêvent d'améliorer leur port, d'en faire un véritable et bien aménagé, de tracer au milieu des roseaux un chenal avec des appontements. Le syndicat se préoccupe déjà de ces réformes et la question va être mise à l'écoute. En résumé, il cherche par des réformes et sans attendre à établir solidement cette prospérité si durement acquise. Pour mieux faire apprécier les progrès réalisés par les pêcheurs enfin chez eux, signalons deux petites choses qui paraîtront peut-être infimes aux esprits superficiels. Jadis, quand Passay vivait sous la férule d'un maître, les habitants, au jour de leur fête locale, se voyaient retirer la permission d'organiser des courses en bateau sur le lac. Et cette année, sans avoir à demander la permission à personne, le comité a pu instituer des joutes nautiques où les plus musclés purent rivaliser de force et d'agilité. En outre, autrefois, à cette époque, dont la population a gardé des souvenirs exécrables, toujours quand revenait le temps de cette fête, on ne trouvait pas de poisson à Passay. Le marché dès le matin avait été soigneusement dégarni et il était interdit d'en vendre. Cette année, tous ceux qui désiraient goûter aux perches, aux anguilles, aux tanges du lac ont pu s'en procurer sans que les pêcheurs aient à redouter des représailles. Ces détails méritaient d'être notés. Ils permettent de se faire une idée plus nette de la situation des habitants de Passay et avoir la vivacité avec laquelle chacun prenait du plaisir durant cette nuit de fête, dont la date coïncidait avec une date historique, la nuit du 4 août. Celle de l'abolition des privilèges. Les pêcheurs du lac avaient l'air de célébrer une délivrance véritable, plus qu'une tradition joyeuse. Le 2 septembre 1908, une seconde fête se tient à Passay. En plus des traditionnelles animations, il y a un banquet de 250 convives qui a lieu pour l'inauguration officielle des deux coopératives ouvrières. Le Phare de la Loire, là encore, consacre une page entière à l'événement. Il note la présence matinale de Joseph Blanchard, secrétaire, et de Rombaud, trésorier de la Bourse du Travail, d'un conseiller municipal qui s'appelle Fontenot, de Letout, ancien président du syndicat typographique. À côté de ces hommes, il y a également Savary, qui est gérant de la coopérative de consommation L'Économie. Et donc le journal continue, il dit « Le citoyen Corbeau, secrétaire du syndicat, fait visiter les locaux des deux coopératives. La première date de près de 2 ans, son local n'offre rien de particulier, ce n'est à vrai dire qu'un bureau, donc c'est la coopérative de pêche. La seconde est plus récente et elle compte 2 mois d'existence, c'est la fameuse coopérative de consommation où on y vend de l'épicerie, des articles de pêche, des articles de chasse, car, dit le journal, les pêcheurs de Passay vivent autant du produit de la pêche que du produit de la chasse. » La vente des articles de pêche et de chasse n'a pas encore donné grand-chose, dit le journal, mais les rayons d'épicerie, qu'abrite une maison de modeste apparence, comme la presque généralité des habitations du village, donnent un chiffre d'affaires quotidien d'environ 60 francs. Pour un début, ce n'est pas mal. Et alors du repas, donc, sous une tente parquetée derrière l'établissement de M. Corbeau-Père, donc le père d'Arsène, qui est restaurateur, eh bien, il y a de nouveau d'autres convives qui apparaissent. Il y a un conseiller municipal très connu qui s'appelle Sfob, qui est également secrétaire de la Fédération des sociétés coopératives de Bretagne. Voilà, il y a M. Tricouard, gérant du salon coopératif de coiffure. Il y a aussi M. Guillet, de la société coopérative de cordonnerie. Vous le voyez, en fait, il y a plein de coopérateurs. C'est dire à quel point il y a un souci de ces coopérateurs qui sont plutôt sur la ville de Nantes, qui sont centrés sur la ville de Nantes, de soutenir une initiative qui les sort de la métropole. Corbeau prend la parole à cette occasion. Il dit, il remercie en quelques paroles empreintes de la plus grande simplicité et il laisse en fait Swoob rappeler quelle était la situation des pêcheurs 2 ans plus tôt. Il souhaite évidemment que l'union durable et féconde qui a fait obtenir aux pêcheurs de Passet les brillants résultats qu'on connaît, eh bien il souhaite que cela se perpétue et que ça les achemine par degrés vers une situation toujours meilleure. L'orateur conclut que la preuve est faite de l'inutilité du patronat et de la finance et que l'avenir est à l'association et à la coopération. Blanchard va prendre également la parole et il déclare, lui, que c'est surtout la Bourse du Travail de Nantes qu'on a voulu honorer en son humble personne pour le concours qu'elle a apporté aux pêcheurs de Passet dans l'œuvre d'émancipation à laquelle, pardon, d'aucun d'entre eux s'était attelé. Quand le citoyen Corbeau, Philippe 2 ans, appelle à son concours, toute une population de travailleurs était courbée sous la férule du maître. Personne n'osait bouger par crainte de ses foudres. Et lorsqu'il donna à la chevrolière une première conférence, c'est à peine si dans l'auditoire venu pour l'entendre, on comptait 9 pêcheurs. Il n'a pas fallu moins que la ténacité du secrétaire actuel du syndicat et de quelques-uns de ses camarades, bien résolus à secouer le joug pesant sur leurs épaules, pour avoir raison des défiances et des craintes du plus grand nombre. Et Blanchard de souligner la part prise par les femmes dans ce combat, poussant leurs maris à se syndiquer, de rappeler aussi l'importance d'avoir le soutien de l'opinion publique pour vaincre. Et il dit par contre, rien n'est acquis. Les adversaires ouverts ou sournois de leur œuvre n'ont point désarmé. Ils nourrissent toujours l'espoir de leur voir commettre quelconque faute et d'en profiter pour triompher. Et les adversaires de cette coopérative sont notamment les pêcheurs dissidents qui sont restés en marge de la coopérative tout en profitant des acquis de la lutte. Donc comme l'indique la fin de l'article, des divisions persistent au sein des pêcheurs. L'ennemi Guillou a été écarté, nombre de pêcheurs ont abandonné le syndicat au point que, visiblement, en 1908, seule la moitié d'entre eux a encore une carte syndicale en poche. Ce qui pose problème, évidemment, pour élire le président de la société coopérative. Après plusieurs tours, en fait, hein, parce que ça se partage 6 pour, 6 contre, etc., c'est le doyen Baudry, dit Bascule, voilà, un des pêcheurs, qui devient président. Et puis, autre souci auquel est confrontée cette coopérative naissante, hein, et soutenue, mais qui tend parfois à vaciller, eh bien, c'est que certains pêcheurs ne respectent pas les règles concernant la vente du poisson. Et ils n'ont visiblement pas compris que la coopérative en était la garante, au même titre que Guillou auparavant. Et c'est le cas d'un dénommé Padiou, hein, qui est vivement sermonné le 6 août 1911 par le marquis de Juigné lui-même. Le conseil d'administration de la Société coopérative des pêcheurs du lac m'informe que vous refusez de vous soumettre au règlement établi et que vous avez vendu du poisson à des particuliers sans estimation préalable du montant des droits revenant à la société, violant ainsi les articles fondamentaux des statuts de cette société. Que de plus, vous avez tenu des propos injurieux à l'égard de ceux qui vous avaient fait remarquer, l'indélicatesse de pareil procédé. Je ne puis assez blâmer votre manière d'agir. La prospérité de la Société coopérative des pêcheurs du lac ne peut exister que si l'obéissance au règlement est absolue. Le rôle et le devoir du conseil d'administration est de veiller à ce qu'aucune infraction ne soit commise. Il est de plus inadmissible que les intérêts de la grande majorité des pêcheurs soient lésés par les jasissements de leurs camarades. Votre exclusion de la société sera donc rendue nécessaire si vous ne voulez pas vous soumettre aux prescriptions que vous avez approuvées en consentant à faire partie de la Société coopérative des pêcheurs du lac. Le 10 février 1912, Arsène Corbeau, secrétaire de la coopérative, et Joseph Garot, garde-pêche, sont portés disparus sur le lac alors qu'ils sont censés revenir en canot de Bouaille. Ils s'étaient partis en tournée de surveillance. Le lendemain, le canot est repéré, quille en l'air et mât brisé. Le corps des malheureux sera retrouvé le 29 février 1912. Arsène Corbeau et Joseph Garot sont inhumés dès le lendemain à la Chevrolière devant une foule considérable dont, nous dit le journal, nombre de Nantais syndicalistes et coopérateurs. Avec ces 2 décès, et surtout le décès d'Arsène Corbeau, c'est vraiment une page de l'histoire de la coopérative qui se tourne et une autre page qui s'ouvre, parce que la coopérative, elle a duré, et elle dure encore, il me semble, elle existe toujours, même s'il reste quoi, 6 ou 7 pêcheurs encore ? 7 pêcheurs aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous raconter ce soir, cette aventure un peu particulière. Les archives, elles reposent essentiellement donc sur la presse. Hein, la presse, dans le dossier 10M45, c'est 90% des ressources, c'est les articles de la presse locale. Mais il y a quelques petits bijoux quand même, comme ce remarquable rapport du commissaire, et puis quelques bribes d'informations. Mais sur le conflit lui-même, en fait, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il y a eu une démarche. Et ensuite, ça s'est réglé entre le marquis de Juigné et Guillou. Je pense que le marquis avait suffisamment de force, de poids, pour faire comprendre à Guillou qu'il était temps qu'il se retire.